Plus d'NFL, plus de LCF, plus de fun et surtout plus de Nick Richard. Et ça, j'en prendrai tout le temps plus. Comment ça va, mon cher Nick?
Ça va très bien toi-même, mon ami.
Ça va très bien. Merci beaucoup. On semble bien aller. Est-ce que les Alouettes vont aussi bien que nous, mon cher?
Je pense que non, par les temps qui courent. D'autant plus que cet après-midi, les Alouettes affrontent ce que je qualifierais d'équipe la plus intrigante de la LCF, le Rouge et Noir d'Ottawa.
Et ça, on n'aurait pas dit ça au début de la saison, hein?
Vraiment pas. Et même que je te dirais qu'à micro fermé, certaines personnes dans l'entourage des Alouettes parlaient d'Ottawa comme l'équipe la moins menaçante de la Ligue canadienne. Et là, Ottawa se retrouve à seulement 2 matchs des Alouettes et de la première position dans l'association Est. C'est vraiment une saison surprenante pour l'équipe d'Avion.
Certainement, et tant mieux, parce que ça peut, vois-tu, faire naître toute une rivalité entre les deux organisations. Je sais qu'il y a beaucoup d'autobus qui s'organisent là, de Montréal. On vous salue d'ailleurs, si vous en allez au match, là, textez-nous donc 514-790-0919. 6 autobus, je crois. Ça fait du monde à la messe qui s'en vont là-bas à Ottawa pour aller voir ce match. Marc-Antoine Decoy ne fera pas partie de la formation. On n'a rien vu de convaincant. Il y a certaines blessures. Lors du dernier match, les Alouettes, on a semblé avoir de la difficulté en offensive. Tu te situes où, toi, dans ton analyse de ce match-là à venir?
C'est difficile d'analyser ce match-là compte tenu qu'on a droit à 2 boîtes à surprises. Je pense qu'il y a quelques semaines à peine, on aurait parlé de ce match-là comme d'une victoire presque facile, tellement les choses roulaient sur des roulettes pour les Alouettes de Montréal. Sauf que tu l'as dit, Marc-Antoine Decoy est absent. On manque encore cruellement certains receveurs aussi dans le camp des Alouettes de Montréal. Et pour moi, Greg, il y a 3 clés dans ce match-là. C'est les Alouettes veulent améliorer leur avance au classement sur Ottawa. D'une part, Cody Fajardo doit prendre son temps. Je t'explique. La semaine dernière, je te disais, je trouve que Fajardo retombe dans certains réflexes qu'il avait en 2023. C'est-à-dire que si son plan A ne fonctionne pas, il improvise et souvent ça tourne au vinaigre. Donc si Fajardo prend son temps, s'il laisse le temps à Rambo, à Julian Grant, de faire leur tracé, de compléter leur verge, de passer le ballon de manière exceptionnelle comme il l'a fait en début de saison, je pense que les Alouettes ont de bonnes chances de gagner. Deuxième chose, j'en parlais, il faut trouver Charleston Rambo. Si vous regardez la fiche des Alouettes, chaque victoire, ou presque, on trouve Charleston Rambo au moins 6-7 fois par match. On l'a seulement ciblé à quelques reprises, 2 attrapés seulement lors du dernier match. Tu sais que j'aime beaucoup Rambo, mais il faut surtout avouer que lorsque le ballon est dans sa direction, Rambo trouve le moyen d'attraper et d'aider les Alouettes. Et troisièmement, la défensive doit se rendre au quart arrière le plus rapidement possible. Pourquoi? Parce que Drew Brown est un peu un quart en montagne russe, c'est-à-dire qu'il est très bon quand il est dans un bon environnement. 4e pour les verges cette saison, 4e pour le nombre de passes complétées, ne lance presque pas d'interceptions. Mais c'est un gars qui, avec le ballon, peut parfois prendre de mauvaises décisions. C'est lui qui a échappé le plus de ballons depuis le début de la saison. A parfois tendance à le garder un petit peu trop longtemps. Et on le sait, la ligne défensive des Alouettes peut faire des ravages. Et compte tenu que tu l'as dit, Decoy n'est pas dans le champ arrière, il faut vraiment limiter les actions de Drew Brown.
Oui, certainement. Et les blessures, à un moment donné... Est-ce qu'on est inquiet dans le camp des Alouettes par rapport à tout ça? Je sais que je me rapporte à l'an dernier avant que cette fameuse série de victoires historiques commence. Là, j'avais eu à peu près tout le monde en entrevue là, dans le retour des sportifs, dans l'organisation, de duo en bas, des joueurs jusqu'à Danny Maciocia. Personne t'inquiet quand on avait eu cette série de 4 défaites-là. Mm-hmm. Là, je sens de l'extérieur de l'organisation... pas la même confiance, peut-être un peu d'inquiétude par rapport à on était une machine posée, balancée en début de saison, avant que les blessures commencent à arriver, et là on manque de synchronisme sur pas juste sur une unité, mais sur toutes les unités sur le terrain.
Ouais, puis j'ai peut-être l'impression, Greg, puis tu me diras si t'es en désaccord ou pas, que ça allait peut-être un peu trop bien pour 100%. La troupe de Jason Mass. Tu le sais, 100%. À certains moments, et ça dans la plupart des sports d'équipe, certaines formations trouvent leur zone, leur air d'aller, et dans ces moments-là, tout va. On trouve un rythme, on trouve une confiance, et dès qu'elle est un peu ébranlée, on se retrouve à paniquer parce qu'on n'est pas habitué d'évoluer dans ce genre de circonstances. Là, les Alouettes se retrouvent dans une période qu'on n'attendait peut-être pas tellement les choses allaient bien en début de saison. Tu parlais des blessures. On dira ce qu'on voudra de la profondeur de cette équipe, et je te parlais de Fajardo il y a quelques instants. Ça reste qu'il doit composer sans Austin Mack et Tyson Philpott, qui sont ses deux receveurs principaux, qui sont possiblement, en fait, assurément parmi les 10 meilleurs receveurs de passe de cette ligue-là. Donc, les Alouettes sont privés de leurs deux meilleurs receveurs. La ligne à l'attaque, comme l'an passé, a des faiblesses. Elle est défaillante. Le jeu au sol ne fonctionne pas. Et en plus, tu as Marc-Antoine Dequoy qui s'absente pour un autre match en raison d'une commotion cérébrale. Et tu le sais comme moi, Greg, les corps n'aiment pas viser en direction de Marc-Antoine Dequoy. Un peu comme dans ses dernières saisons à l'Université de Montréal. Parce que la plupart des corps savent que si la passe n'est pas parfaite, ben ça se retrouve dans les mains de Marc-Antoine Dequoy. Et ça, évidemment, c'est un trou qui sera important pour les Alouettes cet après-midi.
C'est à suivre, effectivement, ce match-là cet après-midi. Donc, on pourra en reparler ensemble demain avant ce dimanche de NFL. Pour l'instant, justement, tu as ciblé quatre affrontements dans la semaine passée. Là, j'ai jamais vu une semaine aussi folle que ça. Je sais pas pour toi, là, tu as quelques années au compteur de moins que moi, mais je me rappelle pas d'avoir vu autant de fameux upsets se concrétiser. Et là, ça a mis un gros, gros point d'interrogation pour tous les résultats qui s'en viennent dès demain.
C'est une parenthèse hyper intéressante que tu amènes parce que, bon, ça fait à peu près une quinzaine d'années que je suis la NFL assidûment, donc un peu moins que toi, évidemment. Je trouve que c'est tellement compliqué d'émettre et de faire des prédictions, tellement cette ligue-là est non seulement paritaire, mais inconstante. Oui, pour les blessures, mais on se rend compte que plus aucune certitude ne tient, mis à part dans le camp des Panthers de la Caroline, ça, c'est un autre dossier. Mais outre ça, c'est tellement une belle saison, je trouve. Puis oui, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui font des pools, qui font des fantasy notamment. C'est tellement difficile d'avoir l'heure juste et de prédire. Mais oui, je t'ai ciblé quatre duels, à commencer par une équipe qu'on n'attendait pas. Les Saints de la Nouvelle-Orléans
Là,
qui
tout le monde
reçoivent les
parle d'eux autres.
Eagles de Philadelphie. Dimanche, 13h. Tu sais que j'aime beaucoup le produit à Philadelphie. J'aime d'autant plus Saquon Barkley qui a enfin trouvé sa niche. Mais qu'est-ce qui se passe avec les Saints, Greg?
Ben, tout le monde parle d'eux autres, mais sais-tu quoi? À 0-2 et à 2-0, là, je pense qu'à chaque saison dans la NFL, et corrigez-moi si je me trompe, encore une fois, sur notre messagerie texte au 514-790-0919, corrigez-moi si je me trompe, là. Mais il y a toujours une équipe qui sort du lot là, pour le début de la saison. On se dit, ça y est, le Super Bowl s'en vient, on est réglé. Là, c'est achetez vos billets de saison, achetez vos billets, c'est-à-dire d'avion pour la Nouvelle-Orléans. Les Saints s'en vont directement là parce qu'on se situe dans les 90 points après deux matchs. Les deux dernières équipes qui ont fait ça ont remporté le Super Bowl. Wow. Wow. C'est tout ce que j'ai à dire. Wow.
Ça fait seulement deux matchs, mais je trouve que le produit, il est intéressant. Puis on se demande qu'est-ce qui a changé chez les Saints. Derek Carr demeure un bon quart arrière, mais je ne pense pas qu'il fait partie de l'élite de cette ligue-là. La formation ressemble à ce qu'on avait l'an dernier, mais un gars dont on parle très peu, c'est Clint Kubiak, qui est le nouveau coordinateur offensif de cette équipe-là, qui a complètement changé le visage de cette offensive. Et Kubiak, où était-il l'an dernier? À San Francisco, s'occupait des jeux aériens. C'est un peu lui qui a mis au monde Brock Purdy et ce système. Donc oui, les Saints sont d'un vent de renouveau. Je pense comme toi là, que c'est une bulle qui va bientôt éclater, mais quand même, c'est un football surprenant que les Saints nous offrent depuis le début de la saison.
Moi, je pense qu'elle éclate là. Dans 24 heures, c'est
Ben,
ça
je pense
éclate,
aussi.
là. Donc, ah
Je
oh oui,
pense aussi.
t'as pris Philadelphie également?
Ben écoute, oui, la gestion de match a été un peu défaillante contre les Falcons la semaine dernière, mais quand même, lorsqu'on regarde le produit des Eagles, je peux pas concevoir qu'ils seront incapables de freiner les Saints. C'est un peu comme toi, là. Tu sais, oui, Alvin Kamara est dans une ligue à part là, depuis deux rencontres, mais quand même, là, les Saints, ça demeure une équipe de milieu de peloton, là. Je pense pas qu'il faut s'énerver avec ça, là.
Allons-y avec ton deuxième point maintenant.
Tu parlais d'une équipe surprenante, même si j'aimais beaucoup la promesse des Cards de l'Arizona, dont en fait une équipe que tu as sauté dans le train, dans le bandwagon, je pense, là, les Cardinals qui sont extrêmement beaux à voir contre
Hey.
les Lions dimanche 16h, un duel, je pense, explosif entre deux attaques qui ont beaucoup à prouver, qui ont beaucoup à montrer, des duels de receveurs extrêmement intéressants entre St. Brown et Harrison Jr., vraiment un duel qu'il ne faut pas manquer, je pense, pour les amateurs de football offensif.
Est-ce que St. Brown va jouer?
En tout cas, je pense, aux dernières nouvelles, il était questionable, il était questionnable. J'ose croire qu'il sera là, sinon, on a Sam Laporta, évidemment. Jahmyr Gibbs au sol, qui n'est pas exceptionnel, mais qui, je pense, peut exploser à tout moment contre un James Conner qui fait des touchés à chaque match. Mais on s'en est parlé, Ordon, Greg, les Cardinals, c'est un produit franchement intéressant. Et on s'en parle en début de saison. Je suis un de ceux qui n'ont pas encore renié Kyler Murray. Je pense que s'il peut trouver une connexion avec Marvin Harrison Jr., ça peut devenir un duo extrêmement menaçant.
C'est, je suis d'accord avec toi. Puis oui, c'est une des équipes qui commence à me séduire. Et j'aurais jamais dit ça il y a tout juste quelques saisons, mais ça commence à me séduire. Et tu sais, j'aime beaucoup les Lions. On le sait, on s'en parle ensemble depuis quelques saisons. Mais ça, pour moi, c'est un duel que je ne veux absolument pas rater demain. Ton troisième match.
Deux équipes qui ont beaucoup à prouver. Tay Ravens contre les Cowboys de Dallas. Un duel, je pense que c'est le duel le plus difficile à prévoir. Est-ce que Lamar Jackson deviendra le premier récipiendaire en titre du trophée de joueur par excellence à commencer une saison 0-3? Ou va-t-il se réveiller et amoindrir la défense poreuse des Cowboys qui a démontré beaucoup de faiblesses la semaine dernière contre les Saints? Le réveil de Prescott, le réveil de Jackson, je pense qu'il ne faut absolument pas manquer ce match-là pour avoir la réponse.
Ouais, et moi, je vous le dis tout de suite, j'ai pris les Cowboys pour remporter ce match-là à la maison. Dans aucun scénario, je vois les Cowboys commencer la saison 1 et 2. Bien que oui, il y a eu quelques petites controverses autour de certains contrats, mais le caca a frappé le ventilateur à Baltimore. Je vais te résumer ça comme ça, là. Avec John Harbaugh notamment, là, les partisans ne sont vraiment, mais vraiment pas contents. C'est la même chose pour Todd Monken, le coordinateur offensif. Ça ne va vraiment pas bien. Puis pendant ce temps-là, celui qui devrait peut-être être l'entraîneur-chef de l'équipe, mais lui, il est 2-0 à Seattle. Donc, j'ai hâte de voir ça demain. De toute façon, on aura le temps d'analyser le tout un peu plus. Et ton dernier match qui sera absolument à surveiller, à mettre dans le calendrier de tout le monde pour demain.
Chiefs contre Falcons.
Et que je suis content que tu l'amènes.
À la question suivante, les Chiefs sont-ils faillibles? Je t'explique pourquoi. Les Chiefs, à chaque année, on dirait qu'on se dit en début de saison, ah, c'est l'année où ils vont craquer. C'est l'année où ils vont trouver leur mur. Or, non. Encore 2-0 en utilisant presque pas Travis Kelce. Oui, Isaiah Pacheco est blessé, mais je suis convaincu que les Chiefs et Andy Reid vont trouver une solution. Et de l'autre côté, à domicile, t'as les Falcons qui semblent avoir trouvé leur air d'aller. Oui, je le sais, l'échantillon est mince, mais quand même, on parle beaucoup de la profondeur offensive avec Mooney, avec London, avec Bijan Robinson, avec Cal Pitts dans le dernier match contre les Eagles. C'est ce qui a fait la différence. Gros, gros, gros duel en Géorgie.
Et moi, j'ai pris les Falcons pour gagner ce match-là.
Très intéressant.
Je te le dis. Et là, je sais que je mange un petit peu la garluche partout, notamment par les fans des Chiefs, mais aussi par le monde qui... Tu sais qu'est-ce que c'est, hein? Tu prends un upset dans une semaine donnée et là, c'est tout d'un coup, tu connais absolument plus rien au football.
Ah ben oui, bien sûr.
Mais je rappelle que si tu avais 8-8 dans tes prédictions la semaine dernière, tu étais un champion du monde. Et c'est ce qu'on a vu pour la majorité des experts d'NFL un peu partout. D'ailleurs, te rappelles-tu, t'étais combien, toi?
J'étais 6. J'avais 6 la semaine passée. C'était un déluge.
C'est ça. J'ai été 8-8. Et je peux te dire que là, j'ai été un petit peu plus audacieux dans certains de mes choix, notamment prenant les Eagles, les Cowboys et les Falcons. Alors, soit, tu sais, je le dis souvent... Des fois, t'es le marteau, des fois, t'es le clou. On verra ce qui arrivera demain. Nick, je te souhaite un très bon match des Alouettes et bien sûr, une excellente bonne journée. Et on se reparle demain, mon cher ami.
À demain.
Salut, mon cher. Il y a des gros points d'interrogation dans le camp d'entraînement chez le Canadien, notamment un de ceux-là, on n'en a pas parlé avec Anthony Marcotte, Josh Anderson. Il pourrait-tu retourner en bas, lui, malgré son contrat? Un peu comme on a vu Armia l'an dernier. On en jase, Oli et moi, avec nos experts de la semaine, dans 2 minutes.